Oui, oui. On va commencer donc cette table ronde autour des damnés et des démons. On va voir que nous allons avoir des aspects assez différents en fonction des intervenants à cette table ronde. On va commencer avec Carpevel, parce que là, on va être vraiment dans la fiction pure et également dans quelque chose qui est intéressant, parce que c'est l'intervention de ces damnés et de ces démons dans l'histoire avec un H majuscule. Comment est venue l'idée, justement? C'est une manière de faire s'affronter le bien et le mal, la trilogie de Willstatt?
La trilogie de Willstatt, rapidement, il faut que je vienne un peu sur sa genèse. C'est-à-dire que j'ai hésité avant d'entamer l'écriture, ou du moins d'entamer véritablement la réflexion qui allait aboutir à l'écriture de la trilogie de Willstatt. J'hésitais entre deux options. J'hésitais entre écrire un roman de fantasy et écrire un roman historique. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais faire les deux en même temps, et c'est comme ça qu'est apparue l'idée de Willstatt. Et ce sur quoi je me suis rapidement fixé, c'était d'imaginer donc de faire une sorte de fantasy, ou du moins de mettre en scène une magie, un imaginaire, qui soit historique. Je voulais montrer des créatures en lesquelles les gens du XVIIe siècle croyaient vraiment, et mettre en scène une magie thaumaturgique, biblique, en laquelle ils croyaient également vraiment, d'où l'importance de la cabale et d'où le recours évidemment aux démons, ghouls et tout un bestiaire, pourrait-on dire, qui relève de la démonologie et dans lesquelles les gens croyaient sincèrement. Je me suis d'ailleurs assez documenté, tant sur la cabale, mais j'ai également lu pas mal d'ouvrages écrits par des inquisiteurs expliquant comment trouver les démons, ce qui permettait en fait de les décrire pour moi, et c'est comme ça que je les ai utilisés.
C'est comme si la superstition n'en était plus une, finalement.
C'était d'une certaine manière, c'est presque une œuvre d'historien, puisque j'ai écrit le monde tel que les gens le voyaient à l'époque. Quoi. Est-ce qu'on fait autre chose que voir le monde aujourd'hui, on a tous un point de vue sur le monde. Est-ce qu'on peut même, pour croire qu'ils sont des avis objectifs, sont en fait, pour beaucoup, conditionnés non seulement par notre éducation, mais notre culture. Enfin, moi, je sais que je ne vois pas le monde de la même manière qu'un animiste. Est-ce que j'ai plus raison que lui? Je ne crois pas. Donc, est-ce que j'aurais plus raison qu'un Européen du XVIIe siècle, et que j'aurais plus raison que lui de ne pas croire aux boules, ou de ne pas croire que certaines créatures magiques qui sont décrites dans la Bible, et qui donc étaient à l'époque étaient considérées comme un ouvrage historique, et ont existé ou pas, les faunes, les centaures et tout ça, c'est pas moi qui en parle le premier, les géants, c'est la Bible qui en parle, les gens y croyaient sérieusement. Ils pouvaient éventuellement ne pas croire qu'ils existaient à leur époque, en tout cas ils pouvaient croire qu'ils avaient existé, et donc c'est presque une démarche d'historien, de reconstruction.
Et le paradoxe, c'est que finalement, le personnage le plus mystérieux, celui peut-être qui intrigue, celui sur lequel il y a le plus de rumeurs qui courent, c'est Kantz, qui est finalement, on peut peut-être en débattre, mais qui est un humain comme toi et moi.
La nature de Kant s'est révélée dans le troisième volume, à la fin du troisième volume. Mais c'est le personnage le plus mystérieux. Bon, ben là, il y a aussi le fait que c'est censé être un roman qui intéresse le lecteur, donc jouer sur la part de mystère que peut incarner le héros, c'est un procédé que j'ai utilisé là. Là, j'étais dans une démarche assez de héros fordien, au sens de John Ford, le réalisateur, le héros solitaire, un peu mystérieux, toujours en retrait, qui intervient au bon moment. C'était ce que je voulais faire avec Kantz. Je voulais aussi montrer un héros pas exactement maudit, mais qui est mis au banc de la société, parce que son boulot, c'est de se frotter aux sorciers, démons et autres fantômes, et que donc lui-même finit par sentir le souffre et souffre de ça, sans mauvais jeu de mots, les gens trouvent que c'est un type bizarre, et puis après tout, il a l'air de s'y connaître beaucoup, ça doit être suspect, et donc je voulais aussi avoir un héros qui est assez, sans aller jusqu'au sacrifice, mais enfin, fait preuve d'abnégation, il sait parfaitement qu'il fait un bon boulot, un travail nécessaire, il le fait parfois seulement parce qu'il n'a pas le choix, mais il sait aussi qu'il n'a aucune reconnaissance à espérer chez ses contemporains.
C'est un damné à sa manière?
C'était d'une certaine manière, dans plusieurs sens du terme, mais je pense qu'il y a... c'était ça aussi une réflexion qui m'intéressait à l'époque sur le héros, c'est celui qui se dévoue à une tâche pour le bien public et qui sera sans doute moins reconnu, moins récompensé, moins choyé que d'autres, moins francs, mais qui savent mieux caresser les populations au sens du poil.
Dominique Camus, vous, alors, là on va sortir peut-être, quoique vous allez me dire ça, on va peut-être sortir un peu de la fiction, puisque vous, votre travail, c'est aussi un travail d'ethnologue, donc d'aller à la rencontre des gens. Voilà, la première question, elle est presque ironique d'une certaine manière, mais dans vos recherches, est-ce qu'il vous arrivait de rencontrer plus de damnés ou plus de démons?
Oh, l'un et l'autre, sans doute. Non, mais moi, ça me gêne un petit peu la notion de démon, parce que les démons, c'est une histoire longue, c'est une histoire lente, et c'est une très, très grande famille. Alors, vous l'avez dit, je suis ethnologue. Alors, il est assez rare qu'on rencontre aujourd'hui des démons, des démons sans doute, des démons peut-être un peu moins. Par contre, on rencontre des diables ou des suppôts des diables. Aujourd'hui, en tout cas, c'est les rencontres que j'ai pu faire.
Plus sérieusement, vous avez travaillé aussi sur les contes oui. qui tournent autour justement de ces sujets, en particulier du diable. Est-ce que, là c'est pareil, il y a un imaginaire, on parle avec Pierre justement de cet imaginaire qu'il a mis dans sa trilogie de Villechat. C'est aussi quelque chose que vous avez ressenti, retrouvé qu'il y a cet imaginaire collectif?
Alors, oui, alors, c'est ça qui est un peu paradoxal avec les démons, en tout cas chez nous en France, hormis récemment avec les gens comme Pierre, les démons n'apparaissent pas tellement dans notre, comme vous dites, imaginaire collectif, on ne les retrouve pas dans notre folklore où on parle d'êtres un peu bizarres, des fées, des lutins, voire le diable. Dans le folklore français, il n'y a pas de créatures extraordinaires, fantastiques, comme il peut y avoir dans le folklore germanique ou nordique. On a des diables, mais les diables, eh bien, ils sont là dans un but très précis et leur comportement est assez similaire à celui des diables. À celui des humains. Il faut bien voir que dans notre société, en France, on a eu des diables jusqu'à la Renaissance. C'est seulement le diable tout court, il est assez jeune chez nous.
Mais justement, est-ce que c'est une culture qui est très marquée par le christianisme?
Oui et non. En fait,
parce qu'en plus, je travaille en Bretagne, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est une
oui,
terre
mais il n'y a pas. En fait, bon, je ne vais pas faire une histoire des démons d'abord. Le lieu n'est pas là. Mais les démons, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, quand on est dans le domaine du magique, donc de faire intervenir des forces. Alors, les magiciens, ils ont en gros deux façons de concevoir les forces sur lesquelles reposent leurs pratiques, et puis bien sûr les croyances que l'on attribue au pouvoir de ces forces. Soit c'est une vision un peu naturaliste des choses, et puis voilà, ils théorisent, ils rationalisent ça un peu comme le ferait un scientifique, un mathématicien par exemple, ou un physicien. Ou alors ils ont une démarche un peu plus spiritualiste des choses, c'est-à-dire que ces forces, c'est un peu des entités. Alors après, le tout, c'est de voir quelle partie on peut tirer du commerce qu'on peut avoir avec ces forces. Il est évident que le meilleur moyen de s'adresser à quelqu'un et de nouer contact avec ce quelqu'un en question, eh bien, c'est que ça ne soit pas un être abstrait, un être qu'on ne connaît pas. Donc on va lui donner de préférence un état civil. Il vaut mieux parler à un être qu'on peut appeler un tel ou un tel qu'un être indistinct. Bien évidemment, cet état civil, malgré que les humains sont des êtres doués d'imagination, bah, ils ne tombent pas du ciel, sans mauvais jeu de mots, si je puis dire. Il est pris quand même dans un référent culturel. Et dans la mesure où on est dans le domaine du magique, donc il s'agit de manier des forces, des pouvoirs, eh bien, ce référent culturel va aller d'emblée auprès des puissances qui sont supposées avoir le maximum de vertus dans tel ou tel registre de compétences qui leur sont attribuées. Donc ça a fonctionné très très, on va dire, jusqu'au moins au 12e, 14e siècle dans notre société. Alors ces puissances, c'était très souvent des génies de la nature, c'est là où on voit les fées, où on voit... Alors après, on peut les décliner, c'est des grandes familles. On peut trouver des gnomes, on peut trouver des lutins, on peut trouver des elfes. En fait, des génies associés ou aux éléments, l'eau, la terre, le feu, ou des fois des génies du terroir liés à un lieu très précis. Et puis, progressivement, ces génies sont passés, mais ça dure en gros 4 siècles, sont passés dans le registre de la démonologie, ont été en quelque sorte, pas encore diabolisés, c'est venu un peu plus tardivement, mais ces espèces de génies locaux comme ça ont commencé à enquiquiner un certain nombre de personnes. Bien sûr, ces personnes, c'étaient les élites culturelles qui, en gros, se sont déchirées entre elles pour savoir si ces génies-là faisaient de l'ombre, éventuellement, au pouvoir de Dieu qui lui était, enfin de notre Dieu qui était sans commune mesure. Pendant en gros un millénaire, il y a eu une communauté d'intérêts bien répartis entre Dieu et puis tous ces génies. Et puis après, on s'est mis à imaginer que peut-être Dieu avait un ennemi et que cet ennemi avait des supporters, une armée, et donc tous ces génies sont devenus progressivement des êtres démoniaques au service du coup d'un chef suprême qu'il a fallu nommer et qui après est devenu le diable. Alors, en gros, c'est ça l'histoire des démons, et c'est ces forces-là que moi, en tant qu'ethnologue, je vais retrouver utilisées dans notre société. Mais des anges ont pu aussi être considérés exactement au même titre que des êtres supposés démoniaques. Il s'agissait de puissance.
On va y revenir sur les anges, justement, mais d'abord je voulais faire réagir Pierre Dubois à ce qui vient d'être dit, parce que vous êtes la spécialiste de la féerie, du merveilleux. Les démons, ils descendent alors du merveilleux ? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ?
Non, justement, il a tout à fait raison. Donc, ce que je veux dire maintenant, je vais faire que le répéter, c'est que tu parlais des esprits de la nature, du genius loci. Effectivement, les gens y croyaient. Qui faisait les éclairs, c'était les dieux. Qui amenait c'est un peu ça. C'était un petit peu aussi des garde-fous. Ces petits dieux, c'est si on épuisait la terre, il y a un tas de petites histoires. C'est on vous a offert le blé, mais le lutin, une fois, lorsqu'il voit gâcher du pain ou des champs mal labourés. Par des gens qui ne respectent pas les rituels justement envers eux, ils disent attention, je t'ai enrichi épi par épi, gerbe par gerbe, je te ruinerai. Hein, et ces petits dieux, ces dieux de l'eau qui disent attention, si vous jetez des immondices dans les rivières, dans la mer, vous allez nous empoisonner, hein, tous les petits esprits, les vivres et tout de l'eau, mais en contrepartie, on va se venger, on va vous empoisonner. Il y avait une espèce d'écologie quelque part tacite, les gens, une forme d'harmonie qu'il ne fallait pas rompre. Et ces petits dieux, comme tu dis, ont été petit à petit, le grand dieu Pan, hein, Kernuno, c'est tous ces grands dieux cornus, c'est le diable, hein, avec ses pattes de bouc, ses cornes.
Mais ce qui veut dire que les aspects positifs qu'il y avait dans ces
personnages sont négatifs.
Voilà, ont disparu ont été retournés.
Voilà.
Alors, pour ce que dit Pierre, notamment à propos des génies de la nature et des génies liés à la fécondité pour les récoltes, là, dans mon bouquin, j'ai des photos. Donc, ce qu'il dit, c'est pas dans les temps antidéluviens, c'est récent. Moi-même, j'ai fait des photos de ce qu'on appelle les gerbes de mai, les bouquets de mai, c'est-à-dire des gerbes tressées de blé de la récolte précédente qu'on met à l'entrée, ou en général, du futur champ de blé pour protéger ces récoltes. Ça, on peut encore, évidemment, il faut savoir où regarder, comment regarder, mais c'est pas une pratique totalement perdue. L'idée, là, il y en a des photos, et moi-même, j'en ai récupéré quelques-uns. Donc, en fait, ce que Pierre disait, c'est que le magique, il a double sens. Il y a un côté... en fait, c'est la seule pratique qui est réversible. Il est à la fois protecteur, mais il punit. C'est vrai que les génies des eaux, ils peuvent nous protéger. L'eau est nécessaire, l'eau est pure, l'eau est bonne, etc. Mais si on les... on les salit de trop par tous les immondices, comme tu dis, qu'on va mettre, eh bien, à un moment donné, ils vont nous le faire payer en retour. C'est ça l'idée qui repose. Donc, ça veut dire, forcément, les humains doivent avoir une écologie, ouais, hein, un rapport bien précis avec ces génies, qui après sont devenus un petit peu des démons, mais au risque bien de se voir taper sur les doigts.
Oui, mais j'ai reçu, ça c'est curieux, j'ai reçu il y a peu de temps un jeune architecte, son prof les faisait travailler justement sur le genius Loki, sur l'esprit des lieux, donc tu vois, c'était sur l'île. C'est vrai que quand on va à Lille, dans beaucoup de villes d'ailleurs maintenant, les gares, on prenait le train, mais on venait se réfugier aussi dans les gares. Les clochards, on venait se réchauffer, on pouvait fumer aussi, on pouvait attendre le train en fumant. Alors maintenant, on a le droit de fumer, il fait très froid dans les gares, on ne peut plus s'asseoir parce que les clochards pouvaient s'asseoir. Et donc là, on fait des trucs, des sièges très désagréables pour qu'ils ne puissent pas rester dedans. Et les trains, en plus, arrivent en retard. Donc les architectes se disent, tiens, pourquoi ce malaise? Enfin, ils pensent, parce que moi, on devrait les obliger à vivre dans les lieux qu'ils fabriquent. Autrefois, il y avait une harmonie, peut-être que le vent était moins violent, parce que il y avait des faunes, même, qui étaient sculptées dans la pierre. Les pierres étaient rondes, il y avait une harmonie, même de l'œil. Il y avait des rappels de la faune, de la flore fantastique, d'une mythologie sur les... où le vent pouvait se rompre, où les oiseaux pouvaient s'abriter, alors que maintenant c'est une architecture coupante en acier, en verre, et on a peut-être, et les démons sont peut-être là justement, c'est que là c'est le vent peut s'engouffrer, tout ce qu'il y a de mauvais peut-être peut s'engouffrer encore plus facilement, parce qu'il n'y a plus les petites barrières des esprits positifs qui étaient là entre ce grand vide, ce néant. Et nous, il y a un malaise.
Alors, pour reprendre un peu sur ce que tu dis, il suffit, là je vous donne des pistes, et faites-le en sortant, et vous verrez, notre architecture, effectivement, pas notre architecture moderne de ces quelques dizaines d'années, mais l'architecture plus ancienne, témoigne de la place du magique, et entre autres de celle attribuée aux puissances démoniaques, grandes ou petites, dans notre société. Il suffit de voir, par exemple, sur les maisons. Vous avez tous bien vu, des fois, et dans certaines rues parisiennes, il y en a, sur les maisons anciennes, des niches avec une statue de vierge. Ce n'est pas pour décorer, hein. Là, on a une protection de la maison. De même, on peut trouver des maisons avec des croix stylisées, en cul de bouteille, des choses comme ça. Ce n'est pas de la déco, hein. Il s'agit de protéger les habitants. Donc, il y a plein de signes comme ça, les croix blanches sur les maisons. Les pierres blanches à l'angle, bien sûr, c'est l'angle gauche, le côté négatif, maléfique. Là, on est face à des rites de construction qui doivent protéger les gens qui seront dans ces lieux. Rien que ça, en déambulant, en regardant bien sûr attentivement, eh bien, on voit la présence du magique dans notre société, dans nos villes.
Jean-Michel Nicolet, je ne vous oublie pas.
Non, mais je...
Mais ça va être intéressant d'avoir aussi votre point de vue à vous qui êtes illustrateur, dessinateur. Justement, on parlait de toutes ces symboliques. Est-ce que justement, vous, quand vous travaillez sur un personnage démoniaque ou de damné, est-ce qu'il y a aussi forcément une influence de certaines choses ?
Bon, je dirais que, par exemple, par rapport au livre sur le diable, fait un certain nombre de choses sur le diable, plutôt que de peut-être de cette référence un peu de ce monde qui a été évoqué, c'est un monde beaucoup plus ésotérique qui m'a influencé. Il y a deux grands points qui me semblent être importants pour moi, c'est la chute, la notion de chute. Et je vais revenir sur ce problème de la chute. Et puis, aussi, l'aspect ambigu du diable, mi-homme, mi-femme, n'est-ce pas ? Androgyne. Alors, pourquoi ces effets-là ? Tout d'abord, on a parlé, évidemment, de ce monde infernal. Il faut considérer que dans certaines traditions ésotériques,
avant la manifestation terrestre, il y a eu une première manifestation qui est une manifestation céleste, et avec un principe créateur et une manifestation céleste. Puis ensuite, des choses, il y a eu chute, puisqu'il y a eu, puisque le camarade Prével parlait de la cabale, il y a eu quelque chose de particulier, c'est la manifestation de l'Adam Kadmon, n'est-ce pas, d'un principe intermédiaire entre le principe de base originel et puis celui qui crée, qui n'est pas Dieu, mais une exégèse de Dieu. C'est un concept évidemment gnostique sur lequel je me suis intéressé, et il existe, autant il existe un monde céleste, autant il existe un monde infernal. Donc il y a une dualité, on pourrait dire une forme d'inversion plutôt que de dualité d'ailleurs, entre ce monde céleste et ce monde infernal. C'est le même mais inversé. Donc évidemment, quand on parle de démons, c'est comme quand on parle des anges. Hein, en haut, il y a le monde céleste avec un principe unique, et puis toute cette hiérarchie de séraphins, d'anges, etc., ce qu'on veut, de trônes, etc. Et puis en dessous, il y a toute cette hiérarchie qui est assez amusante quand on lit par exemple Colin de Plancy, Dictionnaire infernal, où justement là on a toute une hiérarchie. Peut se compléter avec ce qu'a dit le camarade Camus, qui est une chose assez étonnante, intéressante, puisqu'il y a une iconographie qui va avec. Personnellement, c'est pas ce qui m'a intéressé dans la création, mais plus dans la création d'images, mais plus la dimension ésotérique que la dimension visuelle des choses. Cette espèce de suggestion, dans un bouquin sur le diable, j'avais fait un espèce de Lucifer androgyne, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, il régit le monde plus, le monde matériel, le monde de la Terre, plutôt que celui de... Il n'y a rien à voir avec celui du ciel, bien sûr. Donc, pourquoi j'ai fait... Je pourrais dire pourquoi j'ai fait quelque chose sur l'enfer. Parce que je ne vous cacherai pas qu'il est plus facile de faire quelque chose sur l'enfer que sur le paradis. Peindre quelque chose qui n'est pas de nature humaine, c'est évidemment impossible. Donc, et je pense que les moines qui ont essayé, de Giotto à d'autres, qui ont essayé de peindre des paradis, se sont assez bien cassés la gueule, mais par contre les enfers, on peut s'éclater formidablement.
On se souvient plus de Bosch que de Giotto.
Bien sûr, et puis il y a une dimension érotique. Évidemment, tout ça nage dans la matière, et la matière libre, finalement.
Mais est-ce que justement, vous êtes libre de les représenter, parce que c'est quand même des personnages très archétypaux? Est-ce qu'on vous engueule pas si votre diable, il a pas une queue fourchue, des sabots de bouc
Mais qui m'engueulerait alors? je vois pas. Moi, je suis pas comme les moines qui ont peint des fresques au XIIIe siècle. J'ai pas l'Inquisition derrière moi, heureusement. Je peins ce que je veux.
Et le grand public peut être inquisitorial parfois.
Mais c'est me protéger.
Et le diable, c'est le maître du mystère. Il peut prendre n'importe quelle apparence. Il peut se transformer, avoir les pieds fourchus ou pas. Ou des beaux sabots de paysan avec la paille, ou des belles choses avec les boucles dorées pour mieux séduire les demoiselles.
Je vais revenir vers vous tout à l'heure, mais comme Pierre doit nous quitter avant la fin, on va revenir vers lui. Pierre, il y a dans la trilogie de Wilshad, il y a une graduation croissante dans la représentation justement de ces démons. On démarre avec des ghouls qui sont des personnages assez primitifs, on va dire. Et puis on va croissant jusqu'au dernier volume où là on est carrément sur une question qu'on a un petit peu abordée déjà, mais c'est des anges déchus.
Ça s'appelle une progression dramatique, ça. Hein. C'est toute la difficulté d'écrire des romans qui vont, enfin des séries qui vont compter plusieurs volumes. C'est que le premier volume doit être assez fort pour donner envie au lecteur de continuer. d'un autre côté, il faut aussi en garder un peu sur le pied pour que les suivants soient plus intéressants ou au moins aussi intéressants. Et pour qu'ils soient aussi intéressants, en fait, il faut qu'ils soient plus intéressants. C'est la règle du genre quand on écrit des trilogies. Donc oui, j'ai aussi pensé la chose en me disant, on est toujours, comme je voulais être... Je voulais pas être trop pédagogique, je voulais surtout pas être didactique, donc je voulais que familiariser le lecteur petit à petit avec les croyances et enfin, je veux dire la mythologie que je mettais en scène dans ces romans. Donc l'idée de commencer petit avec en effet Calcagoune, un sorcier, pour ensuite faire que mon héros se confronte à des créatures de plus en plus puissantes, c'est voulu. De toute façon, Luke Skywalker, il a donc l'empereur à la fin du troisième. Hein, on ne commence pas par ça.
Mais justement, tu n'es pas ni didactique, ni chiant, mais tu ne laisses pas non plus le lecteur complètement seul. Il y a quand même des explications, il y a quand même les origines, il y a quand même pas mal de choses qui permettent de s'y retrouver et de bien comprendre ce que tu nous racontes.
C'est toute la difficulté, bon, ça passe. Oui, il faut éviter de faire des pages et des pages d'explications. Il faut expliquer que ce qui est nécessaire à l'intrigue, ce qui est nécessaire à la compréhension du roman. À partir du moment où on respecte cette règle, en général, on ne fait pas trop d'erreurs. Quoi. Si les explications, elles ne savent pas montrer que l'auteur sait. Elles doivent servir à ce que le lecteur apprenne. Donc, il faut qu'elles soient utiles, tout simplement. En plus, sur cette période, je dois reconnaître que j'avais dû faire pas mal de recherches, moi aussi. J'ai vite compris aussi que sur ce qu'était la Kabbale, c'est un domaine de recherche extraordinaire, hein, qui m'a vraiment passionné, mais j'ai vu aussi que j'avais tout ce qu'il fallait pour faire un roman très très chiant, si je voulais. Donc, j'ai pas édulcoré, c'est-à-dire que j'ai pas évité les difficultés, mais j'ai pas fait un bouquin sur la Kabbale, j'ai fait un bouquin mettant en scène des gens connaissant la Kabbale. Ce qui me permettait, moi, d'axer le récit sur ce qui était intéressant ou ce qui pouvait ne pas l'être. Je voulais aussi, une difficulté aussi à laquelle j'étais confronté, c'est que mon héros, c'est un jésuite. Il n'était pas question qu'il soit manichéen. Un manichéisme, c'est une hérésie, il ne pouvait pas l'être. Donc il ne s'agit pas de faire un principe divin positif qui en a fait un principe diabolique négatif. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il voit le monde. C'est donc pas non... c'est également pas comme ça que j'ai mis en scène l'univers dans lequel il évolue.
Il y a quand même la présence des humains à travers les sociétés secrètes qui sont omniprésentes dans la trilogie. Ça m'a amené à me dire... On a l'impression d'avoir une confrontation entre le bien et le mal, mais en fait, on a l'impression que c'est une confrontation entre des mots différents.
Pour ce qui est des sociétés secrètes, oui. Entre la Sainte Vème et la Rose-Croix.
On voit pas très bien où est le bien dans tout ça.
La Sainte Vème, elle est quand même un peu moins positive que la Rose-Croix, oui, dans mon bouquin. Mais ceci dit, les deux sont dirigés par des êtres humains, et donc qui ont... la Sainte-Vème est quand même plus négative que la Rose-Croix dans le bouquin. Mais les deux sont dirigés par des êtres humains qui ont les faiblesses d'êtres humains. Des ambitions, des désirs de puissance, de pouvoir, de richesse. Et donc, au final, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient à sauver dans un camp comme dans l'autre. Maintenant, si ces deux sociétés secrètes, je les ai mises en scène, c'est parce que historiquement, elles existent. La Rose-Croix se crée même à cette époque-là. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. Là, c'est la partie historique dans mes bouquins, c'est que l'histoire a un talent fou. Quand on s'intéresse vraiment, qu'on cherche, j'ai pas eu parfois grand-chose à faire. J'avais qu'à regarder ce en quoi lire les textes des Rose-Croix ou lire les manifestes de la Sainte-Vème. Pour trouver pour en faire un matériau extraordinaire à intrigue, à rebondissement.
C'est pour ça qu'il y a un rythme de thriller dans la trilogie.
Oui, peut-être, oui, mais en tout cas, ça relève du polar ésotérique par moment, oui, c'est vrai.
On est plus proche vraiment, effectivement, du polar ésotérique que vraiment de la fantasy à proprement parler.
Oui, ça c'est certain, c'est ce que je voulais. C'est pour ça aussi, je pense qu'on a parfois rattaché Lichtat à ce que peut écrire Umberto Eco, par exemple, par moment, sur le polar ésotérique, évidemment, l'auteur emblématique, c'est Eco, qui est d'ailleurs bien talentueux. C'est pas le problème n'est pas là. Mais en plus, l'enquête a l'avantage, alors là, je reviens à ce que disait Simenon quand il parlait de ces maigrets, c'est que l'enquête, c'est aussi un bon moyen de faire progresser l'intrigue, le roman. On a un personnage qui veut découvrir quelque chose, et donc on le suit dans les fils de son enquête, et ça aide à bâtir le roman. Il appelait ça, c'est faire les romans avec une rampe, quoi, où on... Pour lui, les Fichtat étaient pas loin d'être mes premiers bouquins, en tout cas les premiers bouquins vraiment sérieux. Et donc l'enquête était pour ça, c'est un outil dramatique, un outil de narration qui est très très commode.
Tu disais que tu ne voulais pas, avec un personnage de Jésus, tomber dans le manichéisme.
Mais est-ce c'est lui qui ne peut pas y tomber, oui. Il n'a pas le droit.
Mais est-ce que c'est pour ça qu'il est aussi, il paraît aussi désenchanté?
Je pense que...
Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs.
Non, il est... Je crois qu'il connaît l'âme humaine, quoi, et ça ne peut pas rendre heureux.
Le fait que finalement il sache qu'il est mal vu, alors que finalement il aide les gens, ça ne va pas aider.
Pire, ça. Mais il assiste à toutes les turpitudes. Non, mais il est comme un flic en fin de carrière. C'est étonnant qu'il ne boive pas, par exemple. À sa place, seulement il a pu.
Il a fait pire, parce que quand on découvre. Encore, on découvre pas tout, mais on a quelques éléments de son passé qui laissent imaginer quand même il y a eu des moments où le vase a débordé.
Oui, il est passé par des moments un peu difficiles, oui, ça, c'est certain. c'est un héros, oui, il a une part de...
Il est abîmé.
Il a une part de tragique, c'est-à-dire que c'est un héros, assez rapidement, on comprend que ça ne peut pas vraiment bien finir pour lui, quoi. C'est pas le type qui va s'en... Il va pas emballer la princesse et se sauver après avoir sauvé l'univers, et il est évident que lui, je tenais aussi à mettre en scène un héros à peu près crédible, c'est-à-dire que c'est un héros qui souffre. Parfois, dans la thématique du héros, le héros fait la guerre, à la fin il gagne la guerre, et comme il gagne la guerre, c'est comme s'il n'avait pas fait la guerre en fait. C'est comme s'il n'avait pas vu les horreurs qu'il a vues, c'est comme s'il n'avait pas assisté à tout ça. Comme si le seul fait de la victoire oblitérait tout le reste, toute l'expérience, toutes les épreuves traversées. Moi, il se trouve que j'ai pu rencontrer des gens qui étaient allés au combat, qui avaient connu le feu, et entre ceux qui avaient gagné et ceux qui avaient perdu, la vraie différence, c'est ceux qui sont vivants et les autres. Hein. Pour le reste, oui, c'est mieux d'avoir gagné, mais parce qu'on a l'impression que les sacrifices ont été moins inutiles, mais les blessures, les meurtrissures, les traumatismes, ils sont là. Et donc, je ne voulais pas que mon héros, à la fin, tout simplement parce qu'il arrive à défaire le méchant, puisse passer sous silence tout ce qu'il a dû faire pour arriver à ce résultat-là. Quoi. J'aimais bien aussi ce thème, c'est à la Jack Bauer. Quoi. Il est obligé de faire des monstruosités, moment pour le soi-disant la bonne cause. Sauf que moi, quand il ne fait pas la chasse à de dangereux gauchistes dans les États-Unis, il a d'autres ennemis. Donc c'était, oui, je voulais un héros crédible, un héros humain, un héros qui souffre.
Puisque le thème c'est démon et damné, on va quand même parler aussi de cette ville de Wildstadt qui est, là encore sans mauvais jeu de mots, un peu une zone franche, ou en tout cas quelque chose d'assez assez particulier, hein, surveillé par ce dragon dont on ne sait pas trop finalement ce qu'il surveille vraiment. Est-ce que c'est l'essence même de la ville plus que la ville elle-même? Est-ce que les habitants de Wildstadt, justement, à leur manière, ils sont forcément damnés quelque part? Ils sont un peu condamnés aussi à subir tout ce qui peut se dérouler?
Non, ils sont assez privilégiés. Alors, Wildstadt, je voulais que grâce à cette protection du dragon dont on ignore les raisons, les motifs, soit en fait une représentation à échelle réduite du Saint-Empire romain germanique avec ses divisions politiques, religieuses, etc. Et les classes se superposent. Les deux plans ne sont pas exactement symétriques. Donc, je voulais ça pour Wildstadt et je voulais. Et alors là, on est avant les attentats de 9-1-1, je voulais que les Wildstadters aient une mentalité de New-Yorkais. Se sentaient américains, évidemment, mais à part.
Quoi. D'abord New-Yorkais.
Ils sont New-Yorkais, New York, c'est les États-Unis, mais c'est quand même mieux. Je voulais qu'ils aient cette mentalité grâce à cette protection qui planait au-dessus de leur tête. Et je voulais aussi qu'ils aient ce paradoxe de New Yorkais qui serait menacé par une catastrophe naturelle potentielle permanente, en l'occurrence c'est le dragon. C'était avant que de Boeing que des Boeing se crashent sur la ville. C'est le choc qui a été assez rude quand j'ai découvert ça. Mais oui, non, les vulgateurs ne sont pas maudits, ils sont protégés, et par contre, ils pêchent probablement par arrogance et par confiance.
Quoi. Ce qui fait que finalement, ce qui se passe à l'intérieur de la ville est paradoxalement presque plus violent que ce qui peut se passer à l'extérieur.
Bah, il se trouve que le danger va venir de l'intérieur, en effet. Parce que le dragon, lui, s'intéresse essentiellement à la destruction physique de la ville ou pas. Le reste, que Willstatt soit dirigé par une bande de fous frappés, de démonologues ou de gros fachos, quoi. Bah, lui, ça, c'est pas son problème. Quoi. Donc le danger va venir de l'intérieur, de la sainte ville.
Ce qu'on n'a pas dit, mais autour, ce sont les guerres de religion, c'est la guerre de 30 ans qui démarre. Hein, donc c'est vraiment.
C'était pas une partie de plaisir.
Oui, ça c'est clair.
Il y a eu des régions d'Allemagne où c'est 70% de la population qui est passée par le fil de l'épée. Quoi. Entre les guerres, les disettes et la maladie, c'était. Donc forcément, imaginez-vous vivre dans une ville qui est protégée de tout ça grâce à un dragon pendant que autour l'Europe est à feu et à sang. Ça, évidemment, ça crée des mentalités. Et donc le danger va venir d'ailleurs. Et quand il est. Lutte contre ce danger-là, donc lui, il a pleinement conscience.
En étant tout de même assimilé, finalement, pratiquement à ce même danger. S'il est là, si le danger est là, c'est presque de la faute de Kant.
Oui. Je me souviens, j'ai un moment, c'était une réminiscence, mais c'était revenu. C'est une réplique qu'on fait à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, où on lui reproche d'être là où ça va mal. Quoi. On lui dit, vous apportez le malheur. Il dit, non, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'arrive là où les choses tournent mal. Mais du coup, pour être le porteur de malheur auprès de certains. Ouais, j'aime bien cette idée.
Oui, il y a autre chose, je crois, c'est où il explique qu'on n'imagine pas un boucher ne pas s'occuper de la viande, je crois. Donc en tout cas, il prend une comparaison dans ce genre-là pour dire que voilà, je suis bien obligé de mettre les mains dans le cambouis.
Ah oui, par contre, oui, il est obligé de se coltiner vraiment les choses, oui. En plus, je crois aussi qu'il y a. On finit tous, et là, je. Allez, nous, les foules, nous, les groupes, nous, les sociétés, on a très envie de croire en certaines choses qui nous arrangent, on est facilement dans le déni, et quand il y a des individus qui viennent pour nous dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe, on finit par en vouloir à eux. Le messager est souvent abattu, quoi. Et là, en l'occurrence, quand c'est le messager, quoi, non seulement celui qui essaie d'arranger les choses, mais la première chose qu'il devrait faire, c'est faire comprendre aux gens quel est le danger, qu'est-ce qui les menace. Et tout le monde, et moi par exemple, je préfère ne pas voir, je préfère qu'on me laisse tranquille, je préfère faire semblant de croire aux besoins, et on finit par en vouloir à ceux qui essayent de nous sauver. Pour le moment, je suis convaincu de ça.
Je te remercie, Pierre, parce que je crois que tu as un train qui t'attend.
Oui, je vais pas tarder.
Ouais, donc voilà, dès que tu as besoin, si tu veux encore intervenir, il n'y a pas de souci, mais après je te laisse partir. Mais par contre, j'abordais avec Pierre un sujet sur lequel je voulais vous faire agir. On a parlé des démons jusque-là, mais on a aussi parlé de ces damnés. Je demandais à Pierre si finalement les damnés, ce n'étaient pas les habitants de Wildstadt. À vous qui avez étudié un peu les démons, est-ce que ce n'est pas nous les damnés qui vivons autour de ces. De ces situations où parfois des dieux ou des créatures merveilleuses sont peut-être même de notre propre fait transformées en démons.
Peut-être parler pour vous, mais pas pour moi. Assurément, les damnés, il va bien falloir les trouver quelque part, en quelque sorte les fabriquer. Et bien sûr, c'est la société qui va s'en charger et qui va les fabriquer comment ? À l'aune d'un jugement, soit sur des actes, soit sur des pensées, de préférence les deux.
Sur la rumeur aussi ?
La rumeur, c'est ça qui va préfigurer éventuellement à l'inquisition, à l'enquête, donc pour savoir si ce qu'ils ont fait est répréhensible ou pas. La rumeur, c'est ça qui va déclencher une procédure. Hier, on parlait des sorcières, et c'est vrai que quelqu'un a dit, en parlant des juges, des démonologues de l'époque, et ça nous ramène au sujet aujourd'hui, ces gens-là, c'était des gens absolument incroyables, débiles, vraiment des vrais fous furieux pervers, vient d'utiliser la torture. Mais la torture faisait partie des procédures absolument évidentes, classiques, dans le droit. On ne s'interrogeait pas. Alors évidemment, aujourd'hui, ça peut nous paraître étonnant. Mais pendant des siècles et des siècles et des siècles, c'était l'évidence même. Et tous les précis de démonologie sont tous faits pareil depuis le 12e, depuis qu'on en a, on rapporte bien, ce que ces gens font, donc comme quoi ils sont dangereux, donc susceptibles d'être damnés, pourquoi ils le sont, qui va les inspirer, éventuellement donc des démons parce qu'ils vont lier commerce avec eux, et puis après, comment il faut les faire avouer. Donc on ne va tout de même pas prendre des gants avec des gens qui font de telles abominations. Et tous ces livres se terminent par une troisième partie qui est un précis de juriste pour éclairer les juridictions locales en leur disant surtout n'ayez pas de remords, n'ayez pas de problème de conscience si vous torturez, si vous dites des choses fausses. Le mensonge, faire de fausses promesses face à des gens accusés de telles abominations que ceux de sorcellerie ou de liaison avec des damnés, on ne va tout de même pas leur prendre des gants avec ces gens-là. Parce que, de toute façon, ils sont aidés par le prince des menteurs. Voilà. Donc, cette histoire de la torture, eh bien, ça faisait partie des procédures normales d'investigation de simple police de village. Bon, voilà, c'était choquant pour absolument personne.
Parmi les damnés, il peut y avoir ceux qu'on dit possédés aussi. Est-ce que vous faites une différenciation?
Oui, il y a différent. La damnation, en quelque sorte, on va gagner ses galons de damnés. C'est-à-dire,
c'est pour toujours.
Non, c'est surtout. Non. La différence, c'est que ça repose sur un acte volontaire. La personne va faire un certain nombre d'actes par volonté. Hein. Donc se lier par exemple avec des démons pour acquérir telle ou telle puissance et la mettre en œuvre pour satisfaire des besoins terrestres par exemple. Donc ça c'est un acte volontaire. Cet acte volontaire il peut très bien être dénoncé auprès d'humains qui va se charger de les juger et puis on va les envoyer à la patresse et là leur corps il disparaît en fumée bien souvent. Mais l'âme, il va bien falloir qu'elle aille quelque part. Elle sera damnée. Mais damnée du fait d'une action répréhensible de la part des humains. Mais la damnation peut donc provenir aussi d'un jugement, alors qu'on est encore en chair et en os, un jugement divin. On peut être damné, en fait, par le Christ. On peut être aussi damné par les bras armés du Christ, les prêtres. Les prêtres avaient, et encore jusqu'à il n'y a pas encore très très longtemps, et Pierre je pourra aussi en témoigner, on considérait en campagne que les prêtres étaient sorciers. Non pas parce qu'on faisait l'amalgame avec eux, mais on savait très bien que les prêtres avaient la capacité de vouer quelqu'un, donc de maléficier, de lancer une malédiction sur quelqu'un, bien sûr, qui doit, dont le comportement a été répréhensible. Donc, ils peuvent aussi damner de leur vivant des personnes. Et cette damnation peut être même terrible. Les prêtres pouvaient damner, il y a encore quelques décennies, on m'a donné ces témoignages-là, pouvaient transformer les gens, les damner en animaux, notamment en loups-garous. Le prêtre voue au garou. Alors la délation, après, elle peut être éternelle ou elle peut durer un certain nombre de temps. Alors ça, par contre, on le retrouve dans nos folklores, dans nos contes.
On le retrouve dans la Bible aussi. Hein. Les malédictions de génération en génération.
Oui, là, c'est pas de génération en génération. Ça, c'est
l'erreur. Okay.
Non, mais on va trouver ça dans nos folklores. Par exemple, toute une partie du bestiaire fantastique, des loups-garous, même des créatures, des fois associées aux lutins, les follets, par exemple. Eh bien, on ne sait pas trop qui c'est. Et là, c'est vrai qu'on a des damnés. Dans les revenants, il y a des corps de revenants, comme ça. C'est des revenants qui ne peuvent pas trouver le repos éternel, soit en haut, soit en bas, on n'en veut pas. Ils doivent assurer une pénitence, donc celle-ci va être durable. Là, notre folklore fait état de ce genre de personnage. Alors évidemment, on va les considérer comme des êtres démoniaques, parce que quand on les rencontre, ils ne sont généralement pas très sympathiques avec les humains. Mais en fait, ce ne sont pas des divinités au sens divin en tant que tel. Ce sont des êtres de comportement pas vraiment très sympathique, mais qui du coup n'est pas un comportement réellement très humain, puisqu'il vient d'une sanction magique.
Bah, Pierre Dubois, vous qui les avez étudiés, alors justement, qui elles sont un peu ces créatures damnées, ou en tout cas qui ont cet aspect.
Les damnées, ben déjà, le damné, ça commence même déjà dès l'enfance, enfin dans les c'est l'enfant non baptisé. Déjà, s'il meurt non baptisé, il est déjà damné. Et alors là, il y a des textes absolument épouvantables de pauvres âmes perdues d'enfants. C'est horrible. Certains, dans les Flandres, par exemple, sont des petits squelettes avec un petit cœur de feu. D'autres sont des enfants, alors là c'est horrible aussi, qui montent, qui grimpent les pentes d'une montagne. Et à force de grimper, ils n'ont plus de genoux, ils n'ont plus rien, ils n'ont que des moignons. Et lorsqu'ils arrivent en haut, eh bien, ils redescendent à nouveau. Ou alors ils pleurent des larmes de sang et ils cherchent un parrain. Ils cherchent un parrain lorsqu'on promène dans les landes. Il y a tous ces petits queulards ou criards ou criorennes qui viennent autour de celui qui passe là dans la nuit sur sa charrette, par exemple. On raconte l'histoire du charretier là, qui a son fouet. Et brusquement, il se trouve entouré d'un tas de petits damnés, de petits enfants qui viennent lui réclamer « Bénis-nous, bénis-nous, viens !» Et lui va les lancer aux quatre diables en les fouettant et avec son fouet. C'est absolument horrible. Donc déjà, les enfants sont damnés. Alors tous les fantômes, les revenants, c'est parce que aussi ils n'ont pas ceux qui sont, par exemple, enterrés hors de l'église. Ce sont des damnés. Alors, d'un autre côté, il y a le damné, là, pour revenir à autre chose, bon, le loup-garou, tout ça, mais pour revenir aussi quand même à la notion, pareil, ce qui nous décrit un héros damné. C'est vrai qu'il a une attirance pour le damné. Le damné est beaucoup plus intéressant que le héros qui ne l'est pas.
Le saint fait un mauvais héros.
Oh, juste un trou du cul d'abat-jour. Non, mais il n'est pas drôle du tout. Tandis que le capitaine Ahab est damné, extraordinaire. Long John Silver, même le damné. Les dessins de Nicolet, lorsqu'on les regarde, c'est beaucoup plus attrayant que regarder effectivement une Sainte Vierge en train de prier. Il y a un côté intéressant. Tu parles de ton héros, mais c'est vrai que le Shane, l'homme des vallées perdues, ou les héros de Peckinpah sont plus intéressants que le cavalier masqué d'autrefois, le Luis Mariano du sombrero de l'Ouest, avec son grand sourire et tout. Il y a une envie d'être damné quelque part aussi. Oui, voilà, tu vois, il y a vraiment. Oui, voilà. Il y a une attirance vers le démoniaque.
Et puis c'est surtout que l'être damné, en fait, il ouvre à une perspective. Le sera-t-il et va-t-il y avoir rédemption? Le bon, il est bon. Il n'ouvre sur rien. La messe est dite dès le départ. Alors, par contre, précision, tu parlais tout à l'heure que les damnés peuvent être déjà damnés dans le plus jeune âge, dans le plus tendre âge. Les enfants, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, le baptême est un rite d'exorciste. C'est pour retirer des jeunes créatures qui sont innocentes, c'est-à-dire qui n'ont pas encore la conscience du mal, qui n'ont pas pu faire d'actes répréhensibles, et bien de les retirer du pouvoir éventuel du diable de ses sbires. C'est pas une cérémonie comme ça
dans les questions qu'on pose,
offrir des dragées. Hein.
Dans les questions qu'on pose d'ailleurs, au moment du baptême, il y a « rejetez-vous le démon ».
C'est un rituel d'exorcisme. Donc il y a une prononciation de formule sacralisée où chaque mot est pesé. Et après, alors plus maintenant, puisque ça a été rénové, mais il y a encore peu de temps, eh bien, il y avait une onction avec de l'huile qui était sanctifiée, dans laquelle il y avait du sel qui était également béni, qui sont des armes dites classiques pour lutter contre le malin. Maintenant, ça a été retiré, il n'y a plus que les paroles. Mais donc voilà, ça c'est pas anodin. Et ça, effectivement, tout notre folklore en témoigne, et bien évidemment aussi, on retrouve ça dans tout l'imaginaire et la trame de beaucoup de romans. Cette notion du démoniaque liée à des choses très tangibles dans notre culturel.
Jean-Michel Nicolet, puisque vous avez été interpellé par Pierre Dubois, vous aussi, donc, oui, c'est plus intéressant, effectivement, de dessiner, de représenter les aspects sombres, démoniaques.
Évidemment, c'est plus intéressant. J'aimerais bien pouvoir un jour exprimer quelque chose qui est d'ordre immatériel et spirituel et glorieux, n'est-ce pas ?
Mais une auréole, ça suffit.
Mais j'y arrive pas. Et puis je crois que j'ai pas eu de prédécesseur. Parce que peindre un barbu sur un nuage, c'est très bien.
Même avec l'index tendu.
Même avec l'index tendu. Et c'est complexe. Peindre un ange, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que c'est qu'un ange ? D'abord, on a vu que les anges, sur le plan iconographique, ont un aspect plus ou moins féminin. Enfin, bon. Mais en fait, ils sont rien. Ils ont absolument pas sexué, ils n'ont pas une gueule de nana, puisqu'ils sont rien. Ils sont pas de la nature de l'homme. Alors, voilà, on a nos limites, n'est-ce pas ? Par contre, peut-être ce qui est intéressant, c'est les dimensions symboliques qu'on peut suggérer à travers des images. Et des dimensions symboliques qui agissent sur le plan psychique, n'est-ce pas ? Ou sur le plan de l'inconscient. Nous-mêmes, en tant que dessinateurs, travaillant parfois sur des sujets de manière intuitive, n'est-ce pas, et non pas de manière intellectuelle, parce que il est vrai que quand on dessine pas. C'est très simple. Si on sait ce qu'on va dessiner, c'est pas la peine de le dessiner. Si on posait cette question au peintre Francis Bacon en disant vous avez fait une œuvre formidable. Vous êtes parvenu à un résultat incroyable, etc. Il a dit, si j'étais parvenu à quelque chose, je me serais arrêté. Et en fait, c'est vrai. Si on parvient, si on réalise parfaitement ce que l'on a envie de faire, c'est pas la peine de le faire. Donc là, il y a quelque chose qui est dépendant de l'intuition et surtout sur des domaines comme ceux-ci, qui sont des domaines... métaphysique, on peut voir par exemple, je parlais ce matin à quelqu'un, dans la littérature, on parlait de Jérôme Bosch tout à l'heure. Jérôme Bosch, quand on voit par exemple les contes drôlatiques, les songes drôlatiques de Pantagruel qui ont succédé à l'œuvre de Rabelais, on est très proche, très très proche de Jérôme Bosch ou de certaines gravures Bruegel. Eh bien, toute l'image est complètement symbolique. Mais le fonctionnement du symbolisme, il a complètement disparu dans l'esprit des gens. Quand on regardait un tympan de cathédrale, il y avait évidemment tout un symbolisme qui était derrière. Et c'était une manière d'appréhender les choses, comme on pouvait appréhender l'écu d'un chevalier, n'est-ce pas, et lire ce qu'il y avait marqué derrière. Alors moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est pas la représentation au premier degré, mais c'est la suggestion possible qu'on peut faire sur un plan symbolique.
Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ?
C'est très difficile de vous donner des... Mais par exemple, oui, j'ai pu suggérer certaines choses qui étaient dépendantes de la Golden Dawn, par exemple, tout simplement dans des couvertures de bouquins, ou suggestives de certains ouvrages, etc. Maintenant, les codes, il faut les trouver, mais moi, ça m'amuse de les parsemer. Évidemment, si je donne la clé, ça n'a plus d'intérêt. Quand Rabelais dit dans sa préface, il est important d'en chercher la substantifique moelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la quintessence, n'est-ce pas ? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ce que je dis. Et Dante fait la même chose. Ce que je trouve intéressant maintenant, dans le cadre de l'illustration, et non pas de la peinture, qui est quelque chose qui est plus dépendant de l'émotion que l'illustration, qui est dépendante, qui est une relation avec un texte, dans le cadre d'un texte, on peut jouer justement avec une symbolique cachée derrière. Maintenant, au lecteur de la trouver, certains vont les trouver, certains ne vont pas la trouver. C'est comme quand on peut présenter l'écu d'un chevalier, n'est-ce pas ? Il faut savoir la lire, est-ce que c'est une symbolique phonétique ou une symbolique visuelle, c'est encore à voir.
En tout cas, on l'aura compris, il ne faut pas qu'on soit des spectateurs passifs, hein,
non.
Qu'on soit actifs face à votre travail, non. Qu'on peut découvrir d'ailleurs dans
enfin,
cette
ça,
salle.
C'est vieux, hein.
Oui, mais bon.
C'est ça à 20 ans. Et alors c'est très, je dirais tout simplement une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des trucs qui vous collent au basque. C'est-à-dire, vous avez fait un truc qui marche 20 ans plus tard, et on dit c'était vachement bien. Enfin, je voyais Fontana tout à l'heure qui me disait ah, c'était bien, Néo. Oui, c'était bien, mais bon, on n'est pas mort, pas encore. Et c'est ce qui se passe maintenant, ce qui se passera demain qui est intéressant. Évidemment qu'il y a des côtés nostalgiques pour les collectionneurs d'ouvrages anthologiques du fantastique. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'avenir, finalement. Enfin, pour ce qui me reste, il m'en reste moins à faire, j'en ai déjà fait. Mais pour ce qui me reste, c'est ce que je ferai ou que j'ai envie de faire qui m'intéresse. C'est très métaphysique, hein, toujours on est dans le même quota de fonctionnement.
Ah ben nous, on a atteint le quota du temps qui nous était imparti pour cette table ronde. Merci en tout cas à nos invités, merci à Pierre Perret qui est donc reparti parce qu'il avait son train. Et puis à nos autres invités, vous pouvez encore aller peut-être prolonger la discussion avec eux d'ailleurs pendant quelques minutes après cette table ronde. Ils seront présents sur les stands. Et puis, en tout cas en ce qui concerne Jean-Michel Nicolet, allez aussi voir le travail qui est exposé ici et puis discuter de ce qu'il fait donc aujourd'hui, puisque ça vous tient également à cœur en allant le rencontrer. Merci beaucoup.